France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, darling. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ben voilà, c'est fait. Le Père Noël est passé. Et sous le sapin, parfois, il a apporté quelques jeux vidéo. Or, ne le niez pas, les plus âgés d'entre vous demeurent parfois circonspects. Et moi-même, qui reste pourtant si jeune d'esprit, j'avoue que je ne me faisais pas une idée très claire de ce que peut le jeu vidéo, en termes de visualité, d'historicité et, allez, on lâche tous les mots de la tribu, d'agentivité. Alors, j'ai été à l'Institut du Monde Arabe où se tient depuis près d'un an une exposition étonnante, si étonnante qu'elle a été prolongée jusqu'au 12 janvier 2025, Bagdad, redécouvrir Madinat al-Salam avec Assassin's Creed Mirage. Disons que si en matière de rendu de la reconstitution vous en êtes resté à vos vieux jeux d'arcade, vous allez avoir un choc. Et puis, associer un musée et un grand industriel du divertissement comme Ubisoft, confronter des objets archéologiques à leurs avatars numériques, penser ensemble les procédures historiques et les techniques visuelles de la reconstitution, avouez que ce n'est pas banal. Et si ce n'est pas banal, alors allons-y voir. On y va donc, hop, allez. On s'immerge, on s'infiltre plutôt avec cette agilité qui sied à ces personnages qui sautent, qui rampent, qui se faufilent. On y va avec nos invités, Fanny Lignon, Jean-Luc Sala, rejoints par nos vaillants, nos intrépides sociétaires du jour, Mathieu Pot-de-Bonneville et Pierre Saint-Garavelou. Et on se pose la seule question qui vaille avec l'histoire. On la regarde de haut ou on s'y embarque? Eh oui, on s'embarque. Allez, entrez dans le game.
Apprenons à faire confiance, à reconstruire.
Et à suivre la voie de la lame.
Réponds-moi, qui sers-tu ?
Nous agissons dans l'ombre.
Pour servir la lumière.
Assassin's Creed, ça commence comme ça. Fanny Lignon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences, habilitée à diriger des recherches en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 1. Votre dernier livre est paru en 2024, Récit vidéoludique, le personnage réinventé. Et vous avez notamment travaillé sur le genre du jeu vidéo. Rassurez-nous, c'est pas que pour les garçons, en fait, les jeux vidéo.
Tout à fait. C'est absolument pour tout le monde.
Ah bah tant mieux, parce que sinon, sans vous, on était en boys band, finalement. Bonjour Jean-Luc Salin.
Bonjour.
Vous êtes scénariste de BD. On vous doit notamment la série d'albums Crossfire et directeur artistique chez Ubisoft Bordeaux. Vous avez raconté un jour avoir découvert l'univers de la BD en faisant la connaissance de Tabari, le père d'Isnogoud.
Ben voilà, oui, vous, oui, j'ai bouclé la boucle.
Voilà, on s'y retrouve avec Bagdad et on va parler effectivement de la question de l'orientalisme aussi, peut-être avec vous. Bonjour Pierre Saint-Garavelou.
Bonjour.
Les auditrices, les auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes un homme sérieux, vous avez lâché le joystick il y a longtemps, non?
Oui, c'est vrai, il y a une vingtaine d'années.
Ah oui, d'accord.
Mais j'ai beaucoup joué.
Ah, Enfin, vous allez nous raconter tout ça. Alors que vous, en revanche, Mathieu Pot-de-Bonneville, quoique philosophe, vous êtes. Vous avez combien d'heures de vol sur Assassin's Creed?
Quelques centaines. Ah. En réalité, je me suis rendu compte en préparant l'émission que j'avais joué à 7 des épisodes de la série. Donc, je pense que je vais essayer de me rassurer pendant cette heure sur
quelques centaines, c'est pas
l'intérêt de la chose.
C'est pas assez pour se désocialiser complètement, mais suffisant pour en parler doctement, en fait.
On va tâcher.
D'accord. Alors, on va commencer peut-être par vous, Jean-Luc Salat. Donc, commençons par cette extraordinaire exposition qui est aussi une collaboration entre l'Institut du Monde Arabe et Ubisoft sur ce jeu. Comment ça s'est passé?
C'est un retour en fait pour nous, puisqu'on a commencé à collaborer avec eux quand on a commencé à conceptualiser le jeu. On a identifié des objets dans leur collection. Ça fait 16 ans maintenant que Assassin's Creed existe en tant que série jeu. Et au fur et à mesure, on a établi des contacts privilégiés auprès des instituts, auprès des scientifiques, historiens, archéologues, spécialistes culturels. Et très vite, d'autres historiens maison, qui connaît bien la maison de l'Institut du Monde Arabe, nous a dit, ils ont des choses dans leur collection qui vont nous intéresser.
Oui.
Et on a mis en place ce partenariat immédiatement.
Alors, c'est Ubisoft, une entreprise française de jeux vidéo qui a été créée en 86 par les 5 frères Guillemot dans le Morbihan. Et aujourd'hui, c'est 20 000 salariés à peu près, un petit peu moins. 2300 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Pierre Saint-Garavelou, vous qui êtes un spécialiste des musées, c'est pas banal quand même cette alliance, non?
Non, c'est une expérience inédite en fait. C'est un conservateur aussi de Lima, Éric Delpont, qui a assisté à votre exposition à Bordeaux, puisque la première exposition en fait a eu lieu à Bordeaux sur cet épisode Mirage. Mais c'était une exposition qui était consacrée au concept art, c'est-à-dire uniquement à ces dessins qui sont des dessins d'ambiance qui doivent structurer le jeu vidéo. Et à ce moment-là, eh bien, Éric Delpont a eu cette idée de faire cette exposition à Lima. Et c'est une exposition qui a la particularité d'associer d'emblée le service de médiation et d'éducation de Lima. Et on le voit bien, ils sont parvenus à attirer un public scolaire, un jeune public, qu'on voit rarement à ce point-là dans des expositions. Et je dois dire que c'est peut-être une des rares fois où j'ai vu des enfants de 10 ans lire spontanément des cartels.
Donc c'est... Oui, parce que il y a aussi des cartels, par exemple, il y a les objets de Lima, comme cette coupe dite rubis, décor rayonnant, qui est un objet de grand luxe dans l'Irak du Xe siècle, et qui a un rôle, justement, dans la narration du jeu, mettre en regard, comme ça, les avatars numériques avec les objets archéologiques, c'était ça l'idée, Jean-Luc Salat.
Oui, et puis c'était le challenge, c'est qu'il ne reste quasiment rien de la Bagdad du IXe siècle, vraiment très très peu d'objets, elle a été rasée au XIIIe par les Mongols, donc ça nous a laissé beaucoup de liberté artistique, et en même temps, le peu que l'on connaît, il fallait absolument être sûr que ça soit dans le jeu.
Alors c'est ça qu'on voit d'abord, c'est l'extraordinaire rendu, je le disais, de la reconstitution paradoxale, parce que vous le dites, cette cité qui est fondée par Al-Mansour en 762 sur la rive ouest du Tigre. En fait, il n'en reste rien, il n'y a aucun vestige, mais il y a ce souvenir extraordinaire de la ville ronde autour du palais de la Porte d'Or. Et c'est ça qu'on voit d'abord.
Oui, mais c'est aussi le centre du monde, de ce monde-là en tous les cas, de l'âge d'or de l'islam. Et il est aux portes de toutes les civilisations. On va entendre parler toutes les langues quasiment dans Bagdad, du chinois au grec, en passant par l'hébreu. Et c'est aussi la ville de la paix, et donc qui célèbre aussi une certaine coexistence à ce moment-là dans l'histoire. Ça n'a pas toujours été le cas. Et oui, on a voulu célébrer ça, effectivement, rappeler ce que c'était. Et c'est aussi la ville la plus décrite dans la littérature médiévale à l'époque. Et donc, même si on n'a plus rien archéologiquement parlant, on s'est plongé dans les textes et on a essayé à chaque fois d'être au plus près de chaque description.
Alors, il y a évidemment l'image, il y a aussi le son, justement. Vous venez d'y faire allusion. C'était une capitale polyglotte. On y entendait l'arabe, le kurde, mais aussi l'hébreu, la mazigue ou l'ourdou. Et on entend d'ailleurs, c'est un jeu assez bavard. C'est assez intéressant aussi au départ quand même. Ça ne disait pas grand-chose. Mais en fait, Fanny, vous avez travaillé aussi sur cette question du rapport à la parole des personnages des jeux vidéo.
Oui, c'est toujours un peu étrange quand l'avatar qu'on pilote, dans lequel qu'on incarne en fait, se met à parler. Parce que autant il est facile d'accepter, de le voir et de se voir, et de voir ce qu'il voit, mais on se voit dans son propre champ de vision en fait, mais qu'il prenne la parole spontanément, c'est toujours un petit peu étrange. Ça nous sort un petit peu de l'immersion. Et là, il y a eu des astuces, je trouve, qui ont été mises en place pour le faire parler sans nous sortir de l'immersion. Précédemment, dans les Assassin's Creed qu'il y a eu avant, il me semble qu'il discutait principalement à l'écrit et qu'on ne pouvait rien faire, ou alors s'amuser à faire tourner la caméra pendant qu'il écoutait une discussion. Et là, donc, il y a des techniques qui ont été mises en place. D'ailleurs, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce sujet, parce que ça me semble une avancée sur le plan immersif donc, qui a été posée par ce jeu.
Jean-Luc Salin.
Alors déjà, on a un gros pôle d'écriture, hein, puisque au-delà de ça, c'est le dialogue et l'intérêt de ce qui est dit qui est là. Donc il y a ça. Après, il y a effectivement ces voix sont incarnées, donc on a des acteurs. L'image double, en tout cas pour incarner Bassim. Ces dialogues, il y a souvent le choix multiple qui permet d'être acteur dans ce que l'on va dire. Mais lui, Bassim, a tendance à soliloquer un peu de temps en temps. Voilà, ça, on l'a poussé un petit peu, effectivement, pour que... Il n'est pas naïf, il est natif de Bagdad, mais il va quand même... ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu, et donc il va se poser des questions.
Alors, la voix, le geste, on va y revenir avec Mathieu Pot-Bonneville, mais justement, restons encore un petit peu sur l'image. C'est vrai que c'est tout à fait frappant, cette immersion dans cette Bagdad qui n'existe plus, et pour laquelle vous avez d'ailleurs... fait appel aux meilleurs spécialistes. Hein. J'ai vu que Vanessa Van Rettergem, qui est la grande historienne de Bagdad en France, est créditée dans l'exposition. Alors, c'est paradoxal, parce qu'effectivement, on est sur la rive ouest du Tigre, mais de cette une décennie plus tard, après sa fondation, Al-Mansour lui-même édifie un nouveau palais appelé Al-Khuld, hein, l'éternité, le paradis, à l'écart de la ville ronde, en bordure du fleuve, c'est le palais des mille et une nuits, disons. Il y a une petite difficulté dans le jeu à passer le fleuve.
Alors c'était compliqué, il faut faire des choix. Quand on fait un jeu, par exemple quand on représente Paris de la Révolution dans Assassin's Creed Unity, c'est un échantillon de Paris, c'est pas la totalité de Paris. Quand on représente Londres, c'est un échantillon de Londres et il y a cette frustration du mur invisible, on peut pas aller dans la banlieue. Nous, il a fallu faire des choix aussi et c'est vrai qu'on a tout le quartier de Moukarim qui est sur la rive persique, donc de l'autre côté du fleuve, qu'on a décidé de passer sous silence parce qu'on ne pouvait pas tout reconstituer.
Oui.
Après, en même temps, c'était la rive qui était la plus exposée aux problèmes, on va dire, militaires et politiques. Et il y avait des ponts flottants. Et donc, on a décidé de couper ces ponts flottants. Si on se promène dans la ville et qu'on va regarder un petit peu du côté là où sont les ponts historiques, ben, on va voir des barques collées les unes à côté des autres. Et à un moment, il y a des flèches plantées. On sent qu'il y a eu un problème et qu'il a fallu, entre guillemets, couper les ponts et ne pas aller de l'autre côté de la rive.
Vous détestez les bateaux dans les jeux vidéo, m'a-t-on dit Mathieu Pot-Bonneville.
La plupart des jeux vidéo, effectivement, les bateaux m'exaspèrent. Il y a deux choses qui m'exaspèrent dans les jeux vidéo, c'est les bateaux et les niveaux sous l'eau, où la jauge d'oxygène descend progressivement.
Ça vous fait flipper, ça.
Non, c'est souvent assez ennuyeux. Ce que je trouve assez formidable dans la série Assassin's Creed, l'une des choses que je trouve très belle, c'est la façon dont les corpus historiques mobilisés par tel ou tel épisode sont explorés à raison de ce qu'ils permettent d'exploration dans le gameplay, en fait. Par exemple, j'ai un souvenir assez net de la façon dont celui qui se passe dans le Nouveau Monde et qui met en scène un natif américain va chercher quelque chose que le jeu n'était pas encore allé chercher jusque-là, qui était la cueillette, la chasse, ce qu'on appelle dans le jeu vidéo le crafting, qui consiste à élaborer des objets les uns avec les autres, ou encore dans l'épisode qui se passe chez les Vikings, la façon dont la ruée collective dans les villages se déroule. C'est-à-dire qu'au fond, les périodes historiques sont vraiment investis par des formes de gestes, des formes de pratiques qui vont être mises en valeur, qui vont être mises en lumière. Et ce que vous disiez de la parole à l'instant, de travailler particulièrement cette question du dialogue dans une ville polyglotte, participe du même esprit, au fond. On peut aussi penser à la façon dont le Nil était mis en scène dans l'épisode dit des origines, qui se déroule en Égypte ancienne, où le Nil devient véritablement quasiment un protagoniste du récit. Et là, pour le coup, les bateaux sont assez réussis.
Alors, c'est intéressant, Pierre Saint-Garvelou, parce que justement, bon, là, on parle de jouabilité, en fait. Et si ça évolue comme ça, c'est parce que c'est plus drôle à manier. Mais en même temps, c'est contemporain de certaines évolutions historiographiques.
Oui, alors précisément sur les gestes, ce que vient de dire Mathieu Pot-Bonneville me fait penser au fond à un usage aussi du renouveau historiographique dans l'opus concernant la Grèce ancienne, Assassin's Creed Odyssey, qui, sans doute pour la première fois dans la culture populaire, donne à voir une antiquité colorée. Alors qu'à l'école, on transmet encore cette vision de l'Antiquité blanche, c'est-à-dire à travers la sculpture, les temples blancs. Dans les musées, on a du mal à aussi à transmettre cette idée neuve de l'historiographie. Eh bien, Odyssée a peint les sculptures, les temples, etc. Donc ça, c'est un point important, mais je pense que ça reste tout de même assez rare dans la production vidéoludique mondiale.
Alors justement, pour rester un petit peu sur Bagdad, je vais vous lire un texte, une description du début du XIIe siècle de Ibn Aqil, les vertus de Bagdad, qui correspond au fond à ce qu'on voit dans Assassin's Creed Mirage. Il y a d'abord le grand espace nommé Place du Pont, puis le marché des oiseaux, un marché où on peut trouver toutes les sortes de fleurs et sur les côtés duquel se trouvent les boutiques élégantes des changeurs, puis celui des traiteurs, celui des boulangers, celui des bouchers, etc. De hauts bâtiments avec des poutres de teck supportant des pièces en encorbellement. Et ça, vous en aurez besoin de ces poudres de teck parce que concrètement, d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de poulies, sans doute plus que dans l'Irak du Xe siècle. Il faut, pour jouer, monter, descendre, se cacher.
Oui, c'est un combat que j'ai perdu sur l'authenticité, hein, où j'ai bien signalé que ne serait-ce que d'avoir une porte en bois dans sa maison est un signe de richesse absolue.
Et là, il y en a partout.
Et il y en a partout, parce qu'il faut bien qu'on n'aille pas dans toutes les maisons. On n'allait pas construire l'intégralité de toute la ville. Et puis, on a besoin de ces poutres, parce que le déplacement dans Assassin's Creed traditionnel, il se fait plutôt de toit en toit, même si on a beaucoup travaillé le niveau de la rue, parce que il y a ce côté, ce qu'on appelle le social blending, donc se camoufler dans la foule, qui fait partie un petit peu des fondamentaux des assassins et de notre personnage qui est un ancien voleur des rues, donc il a plutôt intérêt à être au niveau de la rue. Mais ce bois, oui, il est omniprésent. Il est omniprésent dans les quartiers riches, ça c'est vrai, donc, mais on a eu tendance à le déployer un petit peu partout, notamment les fameux moucharabiers, ces petits balcons, petites avancées en encorbellement.
Alors, se faufiler, se cacher, sauter, là on est au cœur de cette gestualité qui vous intéresse, Mathieu Pot-Bonneville.
Oui, c'est une chose que je trouve extrêmement passionnante dans Assassin's Creed. Et en réalité, pour creuser un peu, l'une des choses qui me passionne, c'est la façon dont Assassin's Creed appartient à une famille de jeux vidéo, qui sont les jeux d'infiltration, qui ont changé la donne très profondément dans l'histoire du médium. Ce qui est intéressant avec le jeu vidéo, c'est qu'il commence réellement à avoir une histoire, c'est-à-dire que son devenir est quand même scandé par des ruptures importantes, et l'une de ces ruptures, je la situerais volontiers en 1987. Vous vous souvenez peut-être, Patrick, comment Gilles Deleuze, dans ses travaux sur le cinéma, distinguait et situait au moment de l'immédiate après-guerre, en fait, avec le nouveau réalisme, le passage de l'image mouvement à l'image temps. L'image mouvement étant cette image où l'action et la perception s'enchaînent directement et fabriquent au fond la dynamique du récit. Et l'image temps étant ce moment où ça s'arrête, c'est-à-dire au fond où quelque chose se rompt, se brise entre la perception que l'on a et la réaction que l'on peut produire. Il me semble qu'on pourrait défendre l'idée que en 1987, une rupture du même genre se déroule dans le monde du jeu vidéo parce que soudain apparaît cette forme ludique particulière qu'est le jeu d'infiltration où, d'une part, le joueur est structurellement incapable de l'emporter dans un combat direct puisqu'il est en infériorité numérique absolue. Donc, s'il se bat, il meurt. S'il se bat ouvertement, il meurt. Et où, du coup, l'enjeu devient de se dissimuler, de ne pas être vu, de ramper, de se recroqueviller, de tirer parti des ombres, d'éviter les fenêtres ou les caméras, etc. C'est-à-dire qu'apparaît dans le jeu vidéo cette contrainte paradoxale pour qui, au fond, a en tête les jeux réflexes, hein, les jeux où il s'agit le plus rapidement possible de flinguer tout ce qui bouge.
De dégommer tout le monde, oui.
Le geste
là où s'est arrêté Pierre Saint-Gervais.
Exactement, oui. Space Invaders, en gros. Cette contrainte qui consiste à ne pas bouger, à ne pas agir et à attendre. Ça m'a fait penser, moi, le philosophe Jérôme Lèbre a publié, voici quelques temps, un très beau texte, un très beau livre, autour de la question de l'immobilité et du fait de tenir l'immobilité. Et on peut peut-être l'écouter, la façon dont Jérôme Lèbre décrit la façon dont l'immobilité fait rupture dans l'histoire des arts.
Vos désirs sont des ordres.
En y réfléchissant et en étudiant les choses, le rôle des arrêts sur image est tellement majeur dans le cinéma. Il permet les flashbacks, il permet la suspension, il permet des conclusions ouvertes comme dans les 400 coups de Truffaut. Il y a cette très célèbre image arrêtée finale Quelquefois, des films entiers sont faits avec des tableaux vivants, des moments de fixation. Hein. L'année dernière, à Marianne Bad, il y en a bien d'autres. L'image arrêtée est là, elle a un rôle central au cinéma, justement parce qu'elle contraste avec le mouvement et qu'elle laisse un temps de suspens où le sens vient sans qu'il soit entraîné. Et puis au théâtre aussi, le fait qu'un personnage s'immobilise ou que plusieurs personnages s'immobilisent a un rôle immense et des performances entières, des vidéos entières peuvent être faites avec des personnages qui se tiennent immobiles, ce qui est aussi toujours une forme de résistance, de se tenir là et de ne pas être emporté, que ce soit par une histoire ou par un mécanisme, mais d'insister sur sa propre présence par une tenue immobile, que l'on soit debout, assis ou même couché. Et là, on pense immédiatement au rôle considérable de l'immobilité chez Beckett, qui a inspiré ensuite, je n'ose même pas dire un mouvement, je veux dire tout l'art contemporain.
France Culture, allons y voir. Patrick Boucheron.
Les philosophes et le jeu vidéo, ça y va en ce moment. Hein.
Un certain nombre de travaux commencent à devenir véritablement intéressants. Je trouve que ce que dit Jérôme Lèbre est passionnant parce que avec cette invention de l'immobilité dans le jeu vidéo, on a affaire à un type d'image, à un régime d'image qui ne sont plus finalement ni fixes ni en mouvement, mais où il s'agit d'être fixe dans un monde en mouvement. Alors Assassin's Creed n'a pas inventé le jeu d'infiltration, on le doit à un génie absolu qui s'appelle Hideo Kojima dans la série Metal Gear Solid. Si un jour vous invitez Hideo Kojima, Patrick, je vous devrai une reconnaissance éternelle.
Très bien, très bien.
Mais c'est aussi, à mon avis, la première série tout de même à avoir déployé systématiquement les potentialités gestuelles et narratives et presque des formes d'expérience associées à cette façon très particulière de s'inscrire dans une image. Après tout, dans Assassin's Creed, vous le disiez il y a un instant, il y a un geste important qui consiste à s'asseoir sur un banc pour devenir absolument invisible. Et là, évidemment, qu'un jeu vidéo vous propose de vous asseoir, c'est quelque chose d'assez singulier.
Alors oui, et c'est vrai que pour des enfants, puisqu'on parlait de ça aussi avec vous, Fanny Lignon, donc vous publiez, je le rappelle, récit vidéoludique Le personnage réinventé chez CF Éditions. Les enfants, c'est plus facile de leur faire de les faire rêver avec la beauté du geste qu'avec le désir de s'asseoir et de lire des cartels. Pourtant, c'est ce qui se passe quand même dans cette exposition.
Voilà, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la lecture des cartels, qui est quand même un phénomène assez rare quand on emmène des enfants dans un musée. Et je crois que les jeux vidéo fonctionnent, en tout cas celui-ci, ceux de cette série, fonctionnent comme une forme de vulgarisation de l'histoire, qui donne le goût de l'histoire, qui donne, par le divertissement, l'envie d'aller voir. Et il y a dans Assassin's Creed justement des possibilités, ou pas, c'est-à-dire qu'on décide si on veut, d'aller lire des précisions sur des personnes, sur des faits. Et donc le jeu est à la croisée de ça. Et qu'il y ait des enfants donc, qui lisent les cartels, je trouve que c'est une vraie avancée.
Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Singing in the old bar, swinging with the old stars living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew.
Lana Del Rey, Video Games 2011. Évidemment, c'est déchirant parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est délaissée par son amoureux qui joue trop aux jeux vidéo. Ça arrive quand même, Fanny Lignon, franchement. C'est quoi le rapport de genre qu'on peut établir aujourd'hui dans la pratique du jeu vidéo? C'est toute une histoire, c'est celle
c'est
que
beaucoup
vous
plus compliqué que ce qu'il dit. Je me souviens d'une phrase prononcée, écrite par, je crois, Serge Tisseron, qui disait « Les parents qui s'inquiètent de voir leur garçon trop jouer aux jeux vidéo feraient mieux de s'inquiéter de voir que leur fille n'y joue pas assez, puisque ces jeux préparent au métier de demain.
Ouais. »
Donc, et construisent des compétences de demain. Là, de toute façon, un joueur sur deux est une joueuse, donc quelles que soient les statistiques que l'on consulte. Après, les filles et les garçons ne jouent pas au même jeu, ne jouent pas sur les mêmes plateformes. Il y a des tas de variantes, ne jouent pas pendant les mêmes espaces-temps aussi. Mais globalement, c'est un loisir qui est fondamentalement partagé par les deux. Et Assassin's Creed est assez réuni assez bien les personnes sur ce plan-là.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux de genre, justement, voilà, dans les rôles et les personnages que vous avez étudiés.
Exactement. Alors, traditionnellement, les garçons sont censés pouvoir s'incarner dans des personnages masculins et avoir du mal à s'incarner dans des personnages féminins. Alors que nous, les filles et les femmes, eh ben, on pourrait s'incarner facilement dans des personnages masculins. Il y a là un mystère de la création qui n'est pas explicité. Mais Assassin's Creed, je trouve, a été une série qui a permis une vraie évolution par rapport à ça. Autant en 2007, enfin tous les premiers jeux jusqu'à finalement Syndicate en 2015 n'avaient que des héros masculins. Et dans Syndicate sont arrivés un couple de jumeaux, Evie Fry et Jacob Fry. Et donc on jouait avec l'un, avec l'autre. On pouvait insister et jouer plus avec l'un ou avec l'une qu'avec l'autre. Par contre, quand on regardait la jaquette du jeu, le seul personnage féminin était tout au fond de l'image, tout petit. C'était le seul qui ne regardait pas, tout flou. Enfin, après, il y a eu ça a progressé. Dans Odyssée, on a le choix entre un homme et une femme qui ont la même fonction, le même métier. D'ailleurs, la jaquette est réversible. On peut choisir de mettre la jaquette côté homme ou côté femme. Valhalla a poursuivi en allant plus loin encore. J'avoue que j'étais un tout petit peu déçue dans Mirage qu'on puisse pas incarner une femme, et j'espère que les prochains permettront d'incarner une femme. Pourtant, il y avait un très beau rôle dans Mirage. Et il y avait Roshan.
Oui, alors Jean-Luc Salin.
Oui, alors on nous a reproché ça tout de suite en interne, c'est-à-dire quand on a. Mais en même temps, on est un prélude à Assassin's Creed Valhalla et on explore la jeunesse d'un personnage. Et son genre est déjà fixé, c'est Bassim, et c'est un beau garçon. Donc pour la peine, on a décidé d'écarter cette discussion en disant oui, il y a une sorte d'acquis social dans le jeu qu'on a obtenu en proposant de jouer à la convenance du joueur ou de la joueuse le genre qu'il veut. Mais là, on raconte l'histoire d'un personnage, et donc on ne va pas maquiller ça dans un truc un peu bizarre. Et donc on a assumé le fait qu'on raconterait l'histoire de Bassim.
Alors Fanny Lignon, en 2018, dans la revue Société et Représentation, vous avez publié un article « Les corvées domestiques sont-elles solubles dans le jeu vidéo ?» Et là, c'était une analyse de Core Game, un jeu sérieux en fait, parce que voilà, ça existe aussi, où on jouait à faire les courses et récurer la baignoire.
Alors, c'est une sorte de serious game. Donc, c'est un Anglais qui a imaginé ça. Donc, c'est un jeu convivial qui se met en place quand on est dans un groupe de, par exemple, de colocataires. Et donc, c'est un jeu déclaratif où on doit déclarer, ben voilà, moi, je sais, je suis bon pour faire les lits, moi, je suis bien, je sais passer la pelouse, enfin, tondre la pelouse, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas tant le mode de jeu qui permet, en fait, d'équilibrer les corvées domestiques au sein d'un groupe que les vignettes qui ont été dessinées pour les personnages. Ce sont des vignettes qui s'inspirent des jeux d'Heroic Fantasy. Mais tous les codes habituels du masculin et du féminin sont bouleversés.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on va avoir des hommes qui sourient, on va avoir des femmes qui tirent la gueule, on va avoir des hommes sur fond rose, les bijoux sont également répartis, les coiffes aussi. On a quelques personnages indéterminés, dont un ou deux dragons, mais aussi des personnages qu'on ne peut pas classer. Donc il y en a pour tous les goûts, et pourtant, c'est un jeu qui démontre que on reste un homme ou une femme si on n'est pas habillé en rose ou si on n'est pas... ne se montre pas agressif.
Et là, ça nous introduit à une question intéressante, Pierre Saint-Garavelou. C'est le rapport entre la pratique de l'histoire, peut-être même de la recherche. Il y a un game lab au rendez-vous de l'histoire de Blois depuis la troisième édition, où ce sont des doctorantes, des doctorants qui s'essayent à des jeux, alors là, qui sont bien modestes, hein, c'est pas Ubisoft, mais enfin, bon, voilà, qui tentent de donner à comprendre le rapport entre l'expérience historiographique, proprement dit, et le jeu.
Oui, alors il y a plusieurs choses. Disons que le jeu vidéo comme objet d'étude a été introduit et reconnu très récemment quand même en histoire. En fait, ce sont d'autres disciplines, vous l'avez dit à propos de la philosophie, mais surtout en fait les sciences de l'information et la communication, les sciences de l'éducation qui se sont emparées assez tôt depuis le début des années 2010 de ces questions-là avec plusieurs thèses très intéressantes, dont certaines d'ailleurs sur Assassin's Creed. Et donc, c'est un objet qui est en voie de légitimation, disons, puisque les historiennes et les historiens finissent par reconnaître qu'il s'agit tout de même de la première industrie culturelle au monde et qu'on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire que, au fond, aujourd'hui, les nouvelles générations apprennent l'histoire, découvrent l'histoire principalement à travers les jeux vidéo, avant même l'école ou les musées.
Et si on s'intéresse aux imaginaires, comme on le fait dans cette émission, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Mais il y a aussi la manière dont... encore une fois, la recherche peut s'emparer de ces questions plus directement, pas seulement comme objet, mais je dirais comme allié. Il y a tout un dossier dans la revue Entretemps à laquelle je vous renvoie sur histoire et jeux vidéo, et notamment un article de Jérôme David, Mélissa Monnier et Cassandre Poirier-Simon qui s'appelle Varietas de Brie, une archive visuelle en jeux vidéo. On entre en conversation de chat avec un graveur, le plus célèbre, Théodore de Brie, au moment où il représente justement les premiers effets parfois catastrophiques de l'expansion européenne dans le Nouveau Monde. Et là, on n'est pas dans l'histoire reconstituée, on est, comme disent les autrices et les auteurs, dans une critique embarquée. C'est-à-dire oui. Que là, c'est tout autre chose et c'est pas loin de l'histoire contrefactuelle que vous avez,
oui, alors,
en train de l'Hermoz, étudié et expérimenté, Pierre Saint-Garavelou.
C'est intéressant parce que là, ça pose la question de l'agentivité, c'est-à-dire de la capacité d'action des joueurs et de leurs avatars dans le jeu. En fait, le jeu vidéo se distingue d'autres productions culturelles comme le cinéma ou la bande dessinée par son caractère interactif. Mm. C'est-à-dire que le joueur a le sentiment d'être... en quelque sorte l'auteur du récit auquel il participe. Et donc ça pose la question de cette capacité d'action de l'avatar du joueur. Et dans Assassin's Creed par exemple, ce qui distingue ce jeu d'autres jeux, disons peut-être de la majeure partie des autres jeux historiques ou de type historique, c'est que chaque joueur a un pouvoir d'action relativement limité, puisqu'il se limite au fond à se cacher, comme le disait Mathieu Bodbonneville, ou s'exposer et combattre, grimper, sauter, etc. En l'occurrence, ça pose la question au fond de pourquoi est-ce que vous avez choisi collectivement à Ubisoft ce type de jeu plutôt qu'une narration historique contrefactuelle qui permettrait au contraire d'explorer d'autres cours de l'histoire. Quand on envisage la Révolution française, ça se termine toujours par la mort de Louis XVI. Quand, par exemple, vous choisissez de manière inédite et nouvelle de prendre pour héros un esclave noir dans la Caraïbe, finalement, il ne parvient pas à émanciper les esclaves qui l'entourent, de la même manière que votre personnage très nouveau, le métis Mohawk anglais dans l'épisode sur la Révolution américaine, il se met au service des patriotes britanniques, mais lui-même ne parvient pas à défendre les intérêts de sa communauté.
Oui, mais ça, c'est le principe d'Assassin's Creed, Pierre Saint-Garavelou. C'est-à-dire, on pourrait en discuter, justement, Jean-Luc Salin. C'est que, finalement, il y a des gens qui veulent dévier le cours de l'histoire. C'est les méchants et on va les buter, pour reprendre l'expression.
Alors, il y a des jeux qui expérimentent ça, l'histoire alternative, où il y a un point pivot. Et je vais penser immédiatement à la série des Total War, qui sont des jeux historiques. et qui sont des jeux où, on va prendre l'exemple de Total War Napoléon, on peut tout à fait rater la bataille d'Arcole dès le début et galérer ensuite. Et l'histoire que l'on va écrire est dans la logique de l'esprit de l'époque. Par exemple, si on joue à Napoléon Total War, on comprend tout de suite que si on n'est pas audacieux et si on n'est pas tout le temps en train d'être l'agitateur de la campagne militaire et de l'avancée, on sera victime des autres qui vont se coaliser et qui vont nous fixer. Donc, on peut explorer ça. Et on l'a fait dans Assassin's Creed. Il y a eu un DLC, alors c'est ce qu'on appelle les extensions, et notamment avec le personnage de Connor, ce Moro métis. Il a une discussion assez intéressante avec Washington à un moment où il lui rappelle que il est d'accord pour les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont en train de se mettre en place aux États-Unis. Il est dans les futurs États-Unis, dans les colonies. Il va soutenir le projet de Washington, mais par contre, il rappelle que ça devra s'appliquer à tout le monde, entre autres, le peuple natif. Donc, il y a cette thématique qui est de toute façon frontale pendant tout le jeu. Et il y a eu une extension qui s'appelle la tyrannie de Washington et qui est une sorte d'uchronie où Washington deviendrait roi d'Amérique et où on lui reprocherait sa tyrannie.
Oui, mais Pierre y faisait un peu allusion tout à l'heure, notamment l'épisode sur la Révolution française où on va vraiment à la décapitation de Louis XVI comme on va au martyr. Avec quand même un petit relent complotiste là-dedans, ça a été quand même un peu attaqué, Jean-Luc Salin, et à juste titre sans doute.
Oui, et par des personnes connues. On raconte des histoires, et donc quand on fait de la dramaturgie historique, on aime bien les trous dans l'histoire, les blancs dans l'histoire. On a besoin de méchants aussi, donc on va choisir des gens qui ne demandaient pas autant, et on va décider d'en faire des méchants. Et effectivement, il y a des points de vue, défendables ou pas, et polémiques ou pas.
Pierre Saint-Gervais.
Justement, alors, ce qui me paraît intéressant dans la série Assassin's Creed, c'est qu'elle traduit une vision... de l'histoire universelle, une vision qui remonte au moins au XVIIIe siècle, qui raconte l'histoire comme le déplacement du principal foyer de civilisation dans l'espace et dans le temps. Et c'est frappant parce que si on reprend tous les grands épisodes, l'Égypte ancienne, la Grèce, Rome, les croisades, la Renaissance italienne, la Révolution états-unienne, la Révolution française, même l'ère victorienne a fait l'objet d'un jeu spécifique. Donc on voit bien que vous vous intéressez aux périodes de forte intensité historique. Au fond, comme tous les autres jeux vidéo, hein, puisqu'il y a eu un calcul qui montre que plus de 65% des jeux vidéo se concentrent sur la période contemporaine, notamment la Seconde Guerre mondiale, la Guerre froide, et vous y échappez. Mais en revanche, lorsqu'on parle d'Antiquité, on parle des conquêtes romaines. Lorsqu'on parle du Moyen-Âge, c'est la plupart du temps des croisades. Et lorsqu'on parle de l'époque moderne, il s'agit surtout de la conquête de l'Amérique. Donc là, de ce point de vue, il n'y a rien d'original. Mais évidemment, ce qui est original dans Assassin's Creed, c'est l'inversion du point de vue, le choix de vos acteurs principaux, qui est particulièrement intéressant, on pourra y revenir. Mais on peut se demander aussi pourquoi vous n'avez pas choisi, vous comme d'autres, un grand studio, de traiter par exemple de l'Empire Qing ou de l'Empire Moghol, qui sont les plus grands empires de la planète au XVIIe et XVIIIe siècle.
Ouais, alors j'ai une théorie là-dessus qui n'engage pas du tout Ubisoft, mais c'est des réflexions qu'on se fait nous. C'est on a besoin d'une universalité et d'une carte postale attendue. Le joueur, quand on lui dit qu'on va jouer des Vikings, eh bien il voit tout de suite de quoi on va parler et il a des attentes qui sont souvent du type carte postale. Il s'attend à des coupes de cheveux de la série Viking parce que c'est ce qu'il a en tête. Et ces clichés, on doit les servir aussi. Donc on choisit ces périodes-là parce qu'elles sont connues. L'autre truc, c'est qu'on est toujours sur un point pivot de l'histoire. Ce qui nous intéresse, c'est ces bascules où il y a la lutte entre le libre arbitre et l'autorité. Donc voilà, c'est là où on s'inscrit, nous.
On parle de carte postale, je pense à vous. Donc Mathieu Pot-Bonneville, vous avez joué à Viking. C'était quoi vos attentes?
Oui, absolument. Je trouve très intéressante la manière dont la série s'arrête et se fixe finalement sur des moments, sur une imagerie de l'histoire, pour y redéployer à l'intérieur quelque chose d'assez différent, une série d'à côté. Je le disais, hein, les moments contemplatifs du jeu vidéo, la construction de moments contemplatifs à l'intérieur même d'une narration extrêmement dynamique, est une chose que je trouve passionnante. Je garde un souvenir assez bouleversé du moment du tout premier épisode où on se met à monter à cheval. Et cette expérience-là, d'ailleurs, un certain nombre de hardcore gamers continuent à penser que le premier épisode est le meilleur de toute la série et qu'escalader Jérusalem, Damas et Saint-Jean-d'Acre est une expérience inégalée. C'est-à-dire que le rapport finalement, cette construction du non-narratif à l'intérieur du narratif est une chose que je trouve extrêmement passionnante.
C'est intéressant ça aussi. Fanny Lignon, ce rapport nostalgique des joueurs à leur passion. C'est pas la première fois qu'on entend c'était mieux avant, quoi. Enfin, malgré l'extraordinaire avancée technique dans la reconstitution, dans le rendu, dans les matières, dans les lumières, on a une petite nostalgie, une petite tendresse pour les débuts.
On revient toujours aussi à certains jeux, hein, et il y a manière et manière de jouer à ces jeux. C'est-à-dire, par exemple, moi, je ne joue pas à ces jeux, mais je me promène dans des univers. Donc, je braconne, comme dirait Michel de Certeau, parce que les univers sont forcément très intéressants à découvrir. Et quand vous dites qu'il y a effectivement des points de passage obligés sur des faits historiques avérés, où il y a des preuves, mais il y a effectivement ces trous qui sont de l'ordre du docufiction, et on impulse sa personnalité dans la façon de mener le personnage aussi.
Mathieu Pot-Bonneville, brièvement.
Deux remarques, peut-être sans doute pour me défausser du « c'était mieux avant ». Je pense deux choses. Je pense d'une part que le premier épisode de la série avait ce mérite d'avoir une narration relativement maigre, c'est-à-dire de laisser la place à ce qui constituait la véritable nouveauté de l'expérience, consistant notamment à escalader clochers et minarets pour construire la carte. Et je crois que l'histoire du jeu vidéo, et c'est aussi l'histoire vraiment de l'invention de nouveaux mécanismes de jeu qui sont relativement peu fréquents et peu nombreux. Inventer quelque chose de neuf à faire avec un jeu vidéo, c'est quelque chose de rare et de précieux. Je pense à une série, pour prendre un exemple tout à fait différent, la série qui s'appelle Portal, qui consiste à construire des portails permettant de passer d'un mur à l'autre. On n'avait jamais fait cela. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on raconte, mais il y a ce qu'on fait dans un jeu vidéo.
Sofiane Stevens, Video Games 2020, on continue à réfléchir à cet imaginaire des jeux vidéo, de leur rapport à l'histoire, à la visualité, à la violence aussi. Vous avez peut-être lu en 2022 dans Le Monde un article sur l'Ukraine et les jeux vidéo. Valérie Petrov, qui est un des créateurs de jeux vidéo en Ukraine, imaginer, et plus que ça, développer un jeu où on incarne un habitant de Mariupol qui se réveille un matin avec l'annonce de l'invasion russe et qui a le choix entre partir, sauver sa famille, se battre, et dans tous les cas, évidemment, c'est des choix qui sont lourds de conséquences. Certains sont gagnants, certains sont perdants, mais il ne le sait pas d'avance. Et là, j'y reviens, Pierre Singer-Avelou, on est bien dans une des veines de l'histoire, aujourd'hui, qui a à voir avec le jeu vidéo, l'escape game, d'une certaine manière, le fait de prendre les acteurs au sérieux, de penser qu'ils peuvent plus qu'ils ne le croient. C'est vraiment un des enjeux aujourd'hui de l'expérience historiographique.
Oui, bien sûr, ça nous renvoie à toutes les formes de démarches contrefactuelles qui ont renouvelé l'écriture de l'histoire depuis maintenant au moins une trentaine d'années, et qui permettent, avec des enjeux pédagogiques très forts, hein, qui permettent au fond d'ouvrir un espace de discussion au-delà du vrai et du faux sur les possibles, en l'occurrence les possibles du passé, avec une dimension aussi politique forte, parce que c'est une manière aussi d'ouvrir les futurs au présent. Et en effet, on le disait il y a quelques minutes, Assassin's Creed ne s'inscrit pas dans cette veine, mais en revanche, toute une série d'autres jeux tout aussi importants et qui ont eu un impact majeur sur l'histoire des jeux vidéo, comme par exemple Civilization, procèdent de cette manière, en proposant de réécrire l'histoire.
Oui.
Réécrire l'histoire, alors évidemment, de manière extrêmement contrainte, orientée, puisque souvent ce sont des jeux qui se fondent sur une vision très traditionnelle de l'histoire, l'histoire bataille, l'histoire des grands hommes, donc vous incarnez Napoléon ou Gandhi, mais tout de même, ça ouvre évidemment à d'autres formes de récits historiques.
On peut aussi citer les jeux de Lual Mayen, qui est un réfugié sud-soudanais qui développe des jeux vidéo contre la guerre, ce qui pose le problème, Fanny Lignon, justement, de ces rôles guerriers. Est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous y renvoie intraitablement? Ou d'autres rôles vidéoludiques sont possibles? Vous en faites l'inventaire dans votre dernier livre.
Je pense qu'il y a énormément de rôles vidéoludiques, comme il y a autant de rôles vidéoludiques qu'il y a de sujets et d'actions possibles dans l'existence. Mmh. Donc il y a focalisation, bien sûr, sur ce qui est le plus spectaculaire, ce qui peut se comprendre. Mais il y a aussi, déjà, et je trouve que les jeux d'infiltration sont beaucoup plus dans cette optique-là, puisqu'on essaye souvent d'éviter le combat. Il y a la beauté du geste aussi, hein, la beauté de l'acrobatie. Il y a aussi un vrai plaisir du déplacement, du jouer avec le jeu aussi. On peut jouer à un jeu de course et ne pas courir, s'amuser à, bon, là ce serait un peu violent, mais faire un bel accident ou prendre une piste de ski en allant faire du hors-piste. On peut jouer à côté des jeux et beaucoup. En fait, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. On voit les jeux guerriers, mais il y en a des centaines d'autres qui n'ont rien à voir avec la guerre.
Mathieu Pot-Bonneville.
Cette question de l'agentivité, elle est intéressante parce qu'en effet, les joueurs d'aujourd'hui passent leur temps à essayer de voir si on ne pourrait pas faire autre chose avec les jeux qui leur sont proposés. L'exemple le plus connu, c'est celui du speedrun, qui consiste à faire des jeux souvent très très longs le plus rapidement possible. Et les résultats sont assez sidérants en réalité, en jouant sur les petits glitches, les petits trous dans le récit et dans le système de jeu. Pour revenir sur cette question des possibles en histoire, ce que je trouve assez beau dans la série Assassin's Creed, c'est que, du fait de la narration, qui vous renvoie sans cesse du présent au passé, puisqu'il s'agit de remonter dans la mémoire génétique du personnage présent, on est constamment renvoyé de l'idée que l'histoire est jouée à l'histoire qu'elle ne l'est pas. Puisque finalement, la fin de la mission, elle est connue, et si on en déroge, on perd. Donc il y a quelque chose, je trouve assez beau l'idée que non, on ne peut pas rêver d'un happy end où tel ou tel personnage obtiendrait finalement ce qu'il veut. L'histoire est jouée, mais en même temps, dans la façon dont le joueur est invité à s'y inscrire, ça n'est pas joué, puisqu'il faut le jouer. ce rapport d'une histoire qui est jouée à une histoire qui ne l'est pas, construit une relation avec ce qu'on appelle la téléologie, l'idée que c'est orienté vers un but, qui est assez singulière et en ce sens assez intéressante.
Jean-Luc Sella, on l'a dit, vous êtes directeur artistique à Ubisoft, donc plutôt celui qui va être le rabat-joie, qui va dire bah non, ça s'est pas passé comme ça, les portes en bois il y en a pas partout, mais vous êtes scénariste aussi de BD, on l'a dit également, vous avez même participé à l'adaptation de Ubik de Philippe K. Dick, donc ça vous intéresse tout ça, évidemment, cette question des possibles, et puis le fait que vous pouvez tout prévoir dans un jeu, mais manifestement, les joueurs vont vous déjouer.
Oui, l'histoire est écrite et on ne la change pas. Par contre, on change l'expérience de l'histoire, c'est-à-dire de comprendre qu'il y avait peut-être des subtilités ou qu'il y a des choses que l'histoire n'a pas retenues et qui sont notre espace de liberté, en tout cas de créativité, Je vais prendre l'exemple de la Maison du Savoir à Bagdad. Personne, aucun archéologue, historien est capable de nous dire où elle est. C'était peut-être même un club et pas forcément un bâtiment, même s'il s'appelle la Maison du Savoir.
Là où normalement les philosophes se retrouvaient.
C'est là où le calife faisait traduire tous les classiques grecs pour le confronter à la sagesse islamique. Et donc c'est comme ça qu'on a sauvé la majeure partie des textes antiques par la traduction en arabe. Et donc nous, on a décidé de saisir cet espace de liberté pour faire un building immense, complètement irréaliste, mais crédible.
Dans un style andalou plus que
dans un style abbasside, on va dire abbasside tardif.
Oui, très tardif.
Voilà.
Très très tardif, mais un peu orientalisant.
Ça, c'est aussi mon choix, c'était mon choix d'être... de célébrer l'arabe abbasside dans son ensemble, parce que Assassin's Creed va visiter une civilisation de temps en temps, et c'est son moment en fait. Et donc ça m'embêtait l'abbasside du début, parce qu'il est un peu tristouille. C'est le début des arcs brisés, c'est beaucoup de briques, il n'y a pas beaucoup d'émail, on n'essaye pas encore les moukarnas qui sont ces alvéoles incroyables qu'on a eu un mal incroyable à refaire nous-mêmes en virtuel. Il faut imaginer que c'est des jeux géométriques qui même encore maintenant sont des défis de conception.
Alors sur cette question justement du fil de l'histoire qui est au bord de se rompre, je voudrais vous faire entendre un témoignage. C'est Alice Laloy, elle est marionnettiste et plasticienne, et elle a donné au théâtre de Gennevilliers, dans le cadre du Festival d'automne, un spectacle intitulé « Le ring de catharsis ». Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, les joueurs sont de plus en plus violents, mais on va assister à la révolte de leurs avatars pour que tout puisse revenir dans l'ordre. Comment ? Bah, toujours pareil, c'est un grain de sable qui va enrayer la machine. Écoutez.
Les spectateurs sont conviés à assister à un tournoi entre deux joueurs qui s'affrontent sur le ring par le biais d'avatars aux chair et aux os. Ils ont trois avatars chacun et les enjeux des matchs sont définis en début de partie par les objets qui tombent sur le ring. L'écriture est hybride entre du théâtre d'objets, théâtre de machines, théâtre chorégraphique. Il y a aussi une grande part qui est donnée à la musique. C'est un jeu vidéo artisanal, en fait.
Un jeu vidéo qui est adapté pour le théâtre, ça montre bien qu'on est au cœur d'une culture pas seulement populaire, une culture tout court. Fanny Lignon.
Oui, on est dans les passages d'un média à l'autre, d'une forme à l'autre, qui sont très intéressants, les reprises, les retours, etc. Là, on a affaire aux jeux de combat. Les jeux de combat, c'est un grand classique du jeu vidéo. Je pense à Street Fighter, je pense à Mortal Kombat, des choses comme ça. Et il y a encore des jeux de combat aujourd'hui, bien évidemment. Et dans ces jeux, très souvent, c'est deux personnages. Et on a tendance à les penser comme très stéréotypés, très violents. En fait, ils sont aussi violents que le catch est violent. Le catch est le spectacle de la violence, de la douleur, de la souffrance, les jeux de combat sont du même ordre. Et dans ces jeux de combat qui ont l'air très stéréotypés, ils sont très stéréotypés sur le plan des corps, déjà. Les gestuelles sont parfois un peu humiliantes et montrent des choses qu'on aimerait peut-être ne pas voir. Mais le fait qu'on puisse s'incarner en tant qu'homme, en tant que femme, l'un ou l'autre des personnages, ça change terriblement la donne. C'est-à-dire que derrière ce joueur, derrière cette joueuse, il y a peut-être quelqu'un de l'autre sexe. On peut avoir énormément de possibilités. Donc de combat. Donc ça relativise le stéréotype déjà, et puis ça permet, enfin c'est mieux quand même de se combattre virtuellement dans un univers complètement fantaisiste que de se combattre dans la réalité. C'est catharsis.
Exactement. C'est le sujet de ce spectacle, le ring, mais qui est aussi celui de la possibilité d'enrayer la machine, hein, c'est-à-dire de faire encore une fois mentir la fatalité de l'histoire, ce qu'on n'arrive pas à faire jamais dans Assassin's Creed. Une fois encore, vous dites, l'histoire, elle est écrite, mais elle n'est pas écrite d'avance pourtant. C'est ça la question, Mathieu Pot-Bonneville.
Oui, moi ce que je trouve intéressant dans cette idée d'une révolte des avatars, c'est que je pense que ce qui est encore timide dans l'univers, dans le médium du jeu vidéo, c'est de briser le quatrième mur. Voilà, c'est le jeu vidéo n'est pas encore, ou est encore trop rarement brechtien. Il y a des petites percées, hein, de temps en temps, quand on ne joue pas assez, le personnage s'impatiente et se met au bout de 5 minutes à se tortiller pour dire que vraiment il faudrait peut-être y aller. Mais cette idée d'un rapport critique du personnage à l'endroit de la représentation elle-même, c'est une piste qui me semblerait intéressante à explorer.
Vous aussi, vous vous impatientez.
La discussion est passionnante, mais je pense qu'il ne faut pas surinterpréter l'importance de cette dimension historique du point de vue de la réception des joueurs. Ça, je pense que c'est un point important, c'est-à-dire vu d'en bas, au fond, quand on, et ça, ce sont les études qui le démontrent assez largement, d'abord les études québécoises, les Canadiens se sont beaucoup intéressés à ces questions, oui. Les rapports entre jeux vidéo et histoire, les Français bien après, ils ont beaucoup étudié notamment les forums de discussion de joueurs. Et alors, concernant Assassin's Creed, évidemment, ils montrent bien comment, au fond, la majeure partie des joueurs sont très indifférents à la question historique. Une bonne partie ont bien conscience de l'importance de l'histoire, mais ne la commentent pas, ne s'y intéressent pas plus que ça. Et puis, une minorité agissante, qui est très importante, parce qu'ils se sont des prescripteurs, eh bien, sont passionnés par l'histoire. Et il faut bien dire que Assassin's Creed, ça a été dit, a été à l'origine de nombreuses vocations, je pense, en histoire de l'art, ces dernières années. Mais il s'agit d'une minorité agissante qui est érudite, souvent un rapport très érudit à l'histoire, parfois un peu moins réflexif qu'érudit, et qui va eh bien discuter, pinailler de tel ou tel, sur tel ou tel détail, parfois même déclencher voilà des controverses mondiales, ce qui participe, je pense, aussi à la popularité du jeu. Je pense que ce point de contextualisation est important pour ne pas surévaluer peut-être l'importance de cette dimension historique.
Et ne pas surévaluer non plus la reconstitution, son importance, même si, de fait, c'est votre métier, Jean-Luc Salah, mais on a dit, par exemple, après 2019, que la numérisation en 3D de Notre-Dame par Ubisoft pour Assassin's Creed allait aider à la reconstruction. Non, quand même, on n'est pas à ces niveaux-là, pas du tout. C'est un fantasme.
Oui, on a fait une reconstitution fidèle, mais pas à l'exact. Et notamment, on a triché sur les proportions de Notre-Dame. Elle est beaucoup plus grande dans le jeu que dans la réalité, parce que les focales que l'on utilise dans le jeu rendent les bâtiments échelle 1 un peu plus tristes que dans la réalité, moins impressionnants.
Mais alors, c'est peut-être simplement pour jouer l'accréditation culturelle, en fait, pour aller au musée, qu'on va s'exagérer un petit peu la précision du rendu de la reconstitution, ou alors simplement parce que ça intéresse aussi, ça passionne un petit nombre de gens férocement.
Pour moi, c'est quelque chose qui est souvent oublié quand on parle de jeux vidéo, c'est le côté spectaculaire. Le jeu vidéo est un spectacle. Et donc, il ne faut pas négliger cet aspect, parce que ce qu'on dit sur le jeu vidéo, on pourrait très bien le dire sur un film, d'ailleurs on se prive pas de l'entendre. Donc, il y a cette donnée. Pour moi, le jeu vidéo est une porte d'entrée dans l'histoire. Et il joue très bien son rôle de porte d'entrée dans l'histoire. Effectivement, j'ai beaucoup d'étudiants qui veulent travailler sur cette question. Eux-mêmes ont joué, ils ont des enfants parfois qui jouent, etc. C'est aussi un argument de la part des enfants pour demander à leurs parents « Achète-moi ce jeu, je vais apprendre de l'histoire. »
Mais alors vous contemplez, vous ne jouez pas.
Je joue aussi parfois.
Et vous, Pierre, vous allez y remettre
y les, je vais m'y remettre, évidemment. Il y a le spectacle, mais il y a aussi les mécanismes du jeu qui sont très importants. C'est ce qu'on appelle la gamification. On voit que elle est à l'œuvre dans les musées, parfois dans certains contenus scolaires et dans une forme de pédagogie. Quels sont les mécanismes du jeu? C'est les challenges, les compétitions, gagner des points, répondre à des énigmes. Et là, c'est très intéressant parce que c'est utilisé de plus dans les dispositifs de médiation dans les musées en Europe et en Amérique du Nord.
Luc Salah, d'un mot.
On ouvre effectivement des portes. On est des ambassadeurs de l'histoire, mais on ne se substitue pas à la communauté des historiens. On est l'expérience la plus proche du voyage dans le temps. Ouais. Quand on va visiter un pays, on attend des choses, et donc on doit donner ses clichés. Et en même temps, on doit donner 2-3 petits messages d'historicité, d'authenticité, pour que on ressorte. Un peu mieux que quand on est rentré avec des nouvelles idées en tête.
Quel pays visitez-vous en ce moment, Mathieu Pot-Bonneville, vos heures perdues?
Je tâche de me retenir, de ne pas foncer sur Assassin's Creed Mirage, ça c'est une chose. Et puis j'ai visité aussi quelques pays imaginaires, parce qu'il faut dire aussi que Assassin's Creed a inspiré en retour d'autres séries, et que, par exemple, les derniers épisodes de la série Zelda, qui est une série majeure du jeu vidéo, s'inspirent assez largement du système d'observation et de cartographie qui a été celui d'Assassin's Creed. C'est assez intéressant aussi, cette forme d'intertextualité ludique.
Eh bien, merci. Merci à toutes et tous. C'était Allons-y voir. Merci à vous, Fanny Lignon, Jean-Luc Salah, Mathieu Pot-Bonneville et Pierre Saint-Garavelou, Les références à vos livres, à vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet et Aline Biette, à la prise de son Sébastien Royer et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous.